Je pense qu'ils ne s'attendaient pas au projet qu'on a fait. Ils n'étaient pas...
Ils n'étaient pas prêts.
Ils n'étaient pas prêts. Et donc, j'ai juste été leur expliquer que c'était pas... Que là, on s'attaquait à un autre type de projet. Et donc, en fait, au départ, on devait avoir 5 millions. Et je leur ai dit non, avec 5 millions, je vous apporte le café, mais on ne fait pas une compagnie d'assurance comme ça. Du coup, on a levé 30 millions.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. On reçoit un ovni aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, j'ai en face de moi Ralph Ruimi, CEO et co-founder du néo-assureur Achille. Je ne sais pas si vous les connaissez chez Achille, mais c'est un peu des grands malades. Une bande de déconneurs qui a décidé de marquer l'histoire de l'assurance en faisant un projet qui impose le respect, mais sans se prendre au sérieux. Une aventure entrepreneuriale assez récente, qui a démarré en 2020, je devrais dire très récente, et qui me semble naviguer à contre-courant de pas mal de sujets. Déjà, elle attaque un marché hyper concurrentiel qu'est le monde de l'assurance. Ensuite, parce qu'elle a un positionnement prix assez particulier, assez agressif, une diversification produit assez dingue, et un modèle qui impressionne par son esprit, décalé, mais sa rigueur, qui elle est bien là. Et vous allez voir, rigueur aussi sur la partie, un sujet important en ce moment, sur la rentabilité, qui peut être rare parfois dans ces temps-là. Beaucoup de questions pour toi, mon cher Ralph. Merci déjà d'être là.
Merci à toi de m'avoir invité.
Je suis ravi. On a pas mal de choses à voir ensemble. On va parler assurance, on va parler tech, on va parler innovation, entrepreneuriat. Toi, t'exploses avec Achille, mais t'en es pas à ton premier coup d'essai. Non. T'as un paquet de boîtes à ton actif. Un parcours qui est passé par, j'ai envie de dire, toutes les étapes du monde de l'assurance, mais pas que. T'as commencé dans la boîte dans laquelle était ton père, PFA, Assurance. C'est en quelle année ?
En 95.
95. Après, t'as même été agent d'assurance.
Oui, c'était un agent mandataire. J'étais une sorte d'agent mandaté par la compagnie deux ans.
Avec des années assez riches, on pourra peut-être...
Oui, on en parlera, c'est mes meilleures années.
Bon, et après, t'as décidé de mettre un petit peu de projet et de technologie un peu, parce que t'es passé après en tant que consultant chez CSC Pitmarwick. Tu as fait un passage dans le monde des comparateurs d'assurance. Donc là, tu étais vraiment dans des sociétés tech. Tu as été CEO d'Empruntis. Tu as ensuite monté ton propre comparateur. Tu as été impliqué dans pas mal d'initiatives aussi autour de la lead gen, de l'acquisition digitale et du growth à ce moment-là. Sociétés qui ont été intégrées dans un groupe qui s'appelait Time One. Et tu as revendu tes parts de Time One. Donc, tu as toujours chevauché ou alterné entre assurance et tech. Ça semble assez normal de devoir monter un assureur 100% digital. C'est normal, c'est pas pour autant simple, c'est pas toujours naturel aussi, parce que c'est vrai que tu n'as pas le profil type que j'ai eu à ce micro, à savoir des gens qui ont la trentaine, qui sortent de Supélec ou d'HEC ou de Polytechnique. Et toi, tu as pas mal d'expérience. Tu es un des plus âgés que j'ai pu recevoir.
Merci.
Je t'en prie. C'est l'expérience.
Je le prends
bien. Je le vis très, très bien. Et toi, tu as failli pas te relancer. Parce que quand tu as vendu tes parts de Time One, tu as failli t'arrêter là. Tu étais parti pour.
Oui.
Comment ça s'est passé, ce moment où tu décides, enfin, au moment où t'arrêtes ce projet qui devait être assez intense, tu vends tes parts et t'avais acté le fait de t'arrêter?
J'avais, j'ai un papa qui a travaillé dur toute sa vie, qui a fait un AVC 2 semaines après la retraite.
Ok.
Et j'ai dit, je ferai jamais ça. Donc moi, je veux pas avoir cette vie, j'ai travaillé toute ma vie, j'en profite pas. Et j'avais juré que j'arrêterais de travailler à 45 ans. Mais depuis que j'ai 25 ans.
Et là, ça se goupillait.
J'avais 45 ans, Time One était au top du top, on a des offres, j'ai dit je vends et j'arrête.
Et tu t'es arrêté?
Et je me suis arrêté et l'histoire s'est répétée, j'ai eu des problèmes de santé tout de suite.
Ah bon?
Oui. Donc j'en parle pas beaucoup, mais je voulais des choses qu'on ne dit pas. Et donc tout le monde croyait que j'étais en train de dorer la pilule à dépenser mon argent, mais j'étais en train de me battre contre la maladie et j'ai passé 2 ans très difficiles.
Ok.
J'en ai pas beaucoup parlé et ensuite j'ai regretté très clairement d'avoir arrêté de travailler.
C'est vrai? Et tu fais le lien entre l'arrêt et la maladie ?
J'ai fait le lien immédiatement.
Ça s'est présenté combien de temps après ?
Même pas une semaine et demie après.
Non. Donc t'as vraiment pas eu le temps d'en profiter ?
J'ai même pas l'argent de la vente, c'est resté sur mon compte en banque pendant 18 mois.
Ok.
J'ai même pas eu le temps ou l'envie d'y toucher et de la mettre...
Oui, t'avais pas du tout la tête à ça ?
J'avais pas la tête à ça.
Et raconte-moi comment... Donc en fait, t'as enchaîné un combat pro avec un combat perso, les
non,
deux avec pas mal d'intensité.
Non, j'avais pas de combat pro, j'avais...
T'as ton combat, en fait, ton projet.
J'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire d'arrêter de travailler 45 ans pour kiffer. Bah, en fait, j'ai pas kiffé du tout.
Ouais.
Et j'en ai pas profité. Et donc du coup, malheureusement, j'aimerais bien expliquer qu'est-ce que ça fait de pas travailler et de rien faire pendant 2 ans, mais non, j'ai pas rien fait. J'ai pas travaillé, mais j'ai pas rien fait.
Bon, et visiblement, t'as gagné la bataille.
On
espère.
On a gagné la bataille, on espère toujours. Non, mais voilà. Après, j'ai pris ça comme un dossier. On a traité ça comme il faut. Et puis.
Au moins, t'as passé du temps avec ta famille, j'imagine.
J'ai toujours passé du temps avec ma famille, même quand je travaillais dur. Bon. Donc ça, c'était je pense l'occasion d'en parler, mais c'est le pilier principal de la vie, et c'est ça qui fait qu'on avance.
Bon. Et donc, t'as passé cette étape-là. Comment on passe de cet état de maladie à tu te remets d'aplomb physiquement ? T'aurais pu te dire, là, bon, maintenant que je m'en sors, je peux kiffer. À quel moment ça switch et tu reprends, tu rechausses les crampons ?
Après, je pense qu'il faut être honnête. C'était la plus grosse connerie de ma vie d'arrêter de travailler en pensant que c'était une bonne idée. Et on m'aurait dit, quand j'ai arrêté, on m'aurait dit, Ralph, tout le monde me disait, mais tu fais n'importe quoi, mais comme toi, tu peux pas arrêter. Je leur dis, mais vous comprenez rien, je vais arrêter.
C'est vous qui vous plantez,
vous avez tort et tout. Alors que j'étais dans le tort, mais à 2 milliards de pourcents. C'était vraiment, c'était l'idée la plus nulle, j'avais rien préparé. Parce qu'en fait, quand j'ai vendu Time One, j'ai donné mon PC, mon téléphone.
La nouvelle page.
Et plus rien. C'est-à-dire que j'avais pas de passion, pas de travail, pas de plan B, rien du tout. J'étais là à dire, maintenant, j'ai plus rien à faire. Donc ça a été compliqué. Et donc je pense que je le referai plus jamais. Et je conseillerais aux gens de pas le faire comme ça, c'est-à-dire bien préparer son arrêt. Parce que quand on a eu à Time One, c'était beaucoup de salariés, c'était 160 salariés, c'était 9 pays, on voyageait beaucoup, on travaillait beaucoup. C'est passé de intensif à rien du tout. C'est compliqué.
Et avec le recul, bon là tu donnes quelques éléments, mais t'aurais préféré, enfin t'aurais pu rester chez Time One, ça t'aurait évité les 2 années que t'as passées ensuite.
J'aurais pas pu, je pense, physiquement.
Non, pas pu physiquement.
J'aurais pas pu physiquement parce que la maladie était là. Et elle s'est pas déclenchée juste quand on s'arrête de travailler. Ben, elle prend le dessus, mais elle était là.
Elle s'est révélée à ce moment-là.
Elle était là. Elle s'est juste. En fait, on s'est écouté. On s'écoutait pas. Et là, on s'est un peu écouté. Donc du coup, on regarde. Donc non, j'aurais pas pu continuer. Mais j'arrêterai plus jamais comme ça, brutalement, aucune de mes activités.
Okay. C'est ce qu'on dit souvent, j'ai entendu ça pour les retraités, de préparer petit à petit le truc, d'avoir de nouvelles activités.
Même pas, 3 semaines après, il a fait un AVC.
Ouais.
Donc oui, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler. Je pense que le travail, c'est la santé, j'y crois vraiment. Et moi, j'ai besoin de travailler, donc il faut que je travaille.
Bon. Et ça, c'est un truc que tu t'es dit malade en disant, en fait, faut que je veux pas me laisser...
Non, c'est un mix de plein de choses, en fait. Donc moi, j'avais arrêté, j'étais sûr que je ne retravaillerais plus jamais. Et voilà, je n'en avais pas parlé à mes enfants de la maladie, donc ils ne savaient pas. Donc eux, ils pensaient qu'ils avaient un papa qui glandait à la maison et qui ne faisait rien.
Pendant ta maladie, tu n'en as pas parlé ?
Non, pas parlé.
Comment tu fais pour garder ça ?
On le fait.
Ok.
On préserve tout le monde.
Et puis, donc vous avez porté ça, toi et ta femme ?
Oui, qui a été très, 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 très présente.
Okay.
Je pense que je ne serais pas là si elle n'avait pas été là. Donc c'est important. Et donc, après, tant que ce n'est pas fini, ça ne sert à rien de le dire. Donc,
tu ne connais pas l'issue ?
Tant qu'on n'est pas l'issue, ça ne sert à rien d'aller inquiéter tout le monde. Voilà, on s'est battu et donc on n'en a pas parlé. Et donc,
Mais eux, ils devaient charrier toute la journée.
Toute la journée.
Et en fait, ils ne savaient pas ce qui se passait.
Ils ne travaillaient pas. Et ça me faisait rire à un moment. Et puis un jour, ce qui m'a dit qu'il fallait que je m'en mette au travail, c'est ma fille qui rentre de l'école avec ses copines, parce qu'on a un appartement très sympa. Et elle rentrait tout le temps faire le goûter le vendredi après-midi avec toutes ses copines. C'était le hub du quartier.
Ouais.
Et elle est rentrée, j'étais encore sur le canapé, elle a ouvert la porte, elle me dit « Ah, papa, t'es encore là ?» Mais avec la honte dans les yeux. Mais vraiment, là, limite, je regarde ses copines, je dis « Merde, il est encore là ?» Et le papa, t'es encore là, a résonné dans ma tête comme un coup de canon. Et voir la honte, on dit, j'ai travaillé comme un fou, comme un chien toute
pour
ma vie.
Pour provoquer ça comme réaction.
Pour provoquer ça comme réaction, c'est que je suis forcément le faux. Et je me suis dit, je vais me remettre à travailler.
Bon, il y avait en plus un passage au milieu de coming out vis-à-vis de tes enfants pour leur expliquer ce qui s'était vraiment passé.
Je l'ai toujours, on n'en a jamais parlé.
T'as jamais eu officialisé ça?
Non.
Mais ils le savent.
Peut-être qu'ils seront là, mais ils ne savent pas.
Bah, ça va leur faire un sacré coup.
Je ne pense pas qu'ils vont regarder.
Non. Bah écoute, ta fille a l'air connectée une fois de temps en temps.
Ouais.
Mais est-ce que tu aurais un message à faire passer par rapport à cette période-là après coup, soit à tes enfants, peut-être quand ils...
Non, c'est qui... que... C'est... Dans la vie, tout mal a un bien, tout... Moi, j'ai appris pas mal de choses pendant cette période-là. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur la vie, j'ai appris sur plein de choses. Donc du coup, un message, ce que je dis toujours, que je m'en suis sorti, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, peut-être. J'aurais peut-être pété un câble, j'aurais peut-être fait n'importe quoi, j'aurais peut-être été con, j'aurais peut-être été... Et là, on relativise pas mal les choses et on devient... Moi, je pense que je suis devenu meilleur.
En tout cas, tu as dû gagner en maturité. Tu penses que l'épreuve, j'ai des proches qui sont malades, ça soude aussi vis-à-vis de ton couple et ça te révèle une partie des choix que tu as pu faire et de l'entourage que tu as. Et peut-être que tu as maintenant une philosophie de vie qui est peut-être différente et tu as une façon de... Je sais pas s'il y a un lien... Et de profiter, de jouer un peu de ce que tu fais. Et
la vie est différente, tout est différent. Les décisions sont différentes, les petits bonheurs sont différents, les envies sont différentes, tout est différent. Après, voilà, bah, c'était pas la fin.
C'était ton épreuve.
C'était mon épreuve.
Grosse épreuve, tout se passait beaucoup trop bien jusqu'ici.
C'est ce que je me suis dit.
Rappel à l'ordre.
C'est ce que je me suis dit. La vie, c'est pas, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas le monde des bisounours, c'est... tout n'est jamais trop bien. Donc il faut toujours se remettre en question tout le temps, et se dire comment on avance, est-ce que j'ai fait les bonnes décisions, est-ce que j'ai été bien, est-ce que j'ai été bon, est-ce que j'ai été con, est-ce que c'est malin ce que je fais, est-ce que c'est débile, voilà, toujours se remettre en question, et ça aide. J'étais déjà un peu comme ça avant, je suis maintenant encore beaucoup plus.
Bon, tu me diras comment t'intègres ça, est-ce que physiquement ça a changé quelque chose, est-ce que tu te préserves un peu plus, tu me raconteras un peu comment tu gères
ton... je fais plus de mannequinat depuis.
Ouais. Voilà.
J'ai
dû arrêter.
J'ai dû arrêter.
À contre-cœur
pour elle. Non, mais ça a rien changé. Ça a pas changé grand chose.
Mais peut-être que le rythme que tu suis aujourd'hui, est-ce que quelque part t'y penses ou non? Tu es engagé à 200% dans ce que tu fais.
J'ai plus jamais repensé. Il y a plus rien. Je vis ma vie. C'est terminé. Mais je n'y ai plus pensé.
Ok. Bon, bah c'est canon de pouvoir... assez rassurant aussi pour ceux qui sont dans des épreuves, de se dire qu'il y a une fin et que...
Il y a une fin, il y a un début, et il y a une envie. Et si on se dit c'est pas possible.
Bon.
On me dit toujours l'esprit est plus fort que le corps. Je crois vraiment que l'esprit est plus fort que le corps. Et donc, on y va. Mais c'est un détail de mon...
De ton parcours.
De mon parcours.
Parlons d'un autre détail. À la fin de ces deux années... je crois que tu te rends à un événement professionnel dans le monde de l'assurance pour essayer de renifler un peu ce qui s'y passe et entretenir peut-être ce réseau que tu avais.
Ouais.
Là, tu rencontres... Enfin, tu croises Jean de la Roche-Brochard. Tu le connaissais d'avant ou pas du tout?
Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je te raconte
le... Vas-y, alors j'arrête tout de suite.
En fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans le monde de l'assurance qui s'appelle Alexandre Schall, avec qui je travaillais, qui, lui, savait que j'avais passé des moments un peu difficiles et qui m'appelle... Qui me dira, ça fait longtemps que tu n'es pas sorti de chez toi. Il y a une soirée, les Furets, furets.com, comparateur d'assurance. Et il me dit, écoute, lui, il habite dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer. Il me dit, écoute, je suis sur Paris, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Viens à cette soirée, ça me ferait plaisir de te voir. Et je lui dis, écoute, je ne suis plus dans l'assurance depuis presque 10 ans, je ne connais personne. Il me dit, non, tu t'en fous, tu seras avec moi, on passera un bon moment, viens, on y va. Et donc, je suis arrivé à cette soirée. Et en fait, je connaissais 95% des gens dans la soirée, alors que ça faisait 10 ans que j'avais quitté le secteur, qui me racontaient les mêmes blagues, qui avaient les mêmes problèmes informatiques.
Ça n'avait pas bougé.
Rien, mais même pas d'un iota. Rien. Et un mec qui... quelqu'un que je connais, qui me dit « Ah, t'as vu, Raph, t'as vu un peu l'ovni du moment, Alan, ils ont fait un truc incroyable, ça vaut plus d'un milliard. » Je dit, ah bon, j'avais jamais entendu. Moi, j'étais à 10 millions de... Non, mais j'avais complètement tout arrêté, je regardais rien, donc je savais même pas que ça existait à l'âne. Il dit, ah bon, c'est quoi l'âne? Je regarde, je vais sur Internet, je regarde, et le soir, je dis, mais moi, je sais le faire, ça. Je fais de la tech depuis 15 ans, je connais l'assurance, c'est pas...
C'était l'univers de... tes deux univers qui se rejoignaient.
Je dis, bah oui, c'est génial ce qu'il fait, marketingement, c'est génial et tout, mais techniquement, il n'y a rien de... Ça paraît fou pour un monde de l'assurance, mais pour quelqu'un qui fait la tech depuis 15 ans, c'était rien du tout.
La seule perf, peut-être, c'était l'agrément de l'assureur de santé qui n'avait jamais été délivré depuis 25 ans.
Voilà, ça faisait même 35 ans. C'était une perf. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est la même chose qu'on a fait, nous, cette perf-là. Mais oui, donc, non, la grosse perf, c'est déjà d'y aller. C'est quand même lui qui a été la première fois, ça faisait 30 ans que personne n'avait été, il a dit « je vais le faire ». Et ça a quand même ouvert un peu la voie à d'autres qui se sont dit, bah, si eux, ils ont pu le faire, pourquoi nous, on n'essaierait pas? Mais personne n'avait essayé pendant 30 ans. Et voilà, donc je me suis dit, je vais le faire. Tout le monde m'a dit, t'es un mytho.
Mais quoi, tu vas le faire? Quand tu vois ce projet...
Ah non, mais je me dis, mais sachez le faire. Je me suis dit, sachez le faire. Et donc...
Je sais le faire et je vais ou je veux le faire, il y a un petit...
Non, mais quand on dit qu'on sait le faire, on le fait. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'entre-deux.
Il n'y a pas d'entre-deux, mais c'était pas, ça c'est pas tout à fait fait comme ça. Et ensuite, donc moi, je connais Jean depuis longtemps. J'ai 26 ans. dans l'une de mes premières boîtes, Jean, il travaillait à l'époque chez Pascal Mercier. Et donc, c'était lui qui gérait mon dossier
d'investissement
à l'époque. Je parle de ça, on devait être en 2010 ou quelque chose comme ça. Donc, il était quand même très...
Très jeune, lui.
Très jeune.
Pour le coup.
Toujours aussi brillant, mais très jeune. Et du coup, on a vraiment sympathisé. Lui, c'était pratiquement son premier dossier. Moi, c'était mes débuts. Et j'ai tout de suite accroché avec cette personne que j'ai trouvée très smart et très intelligente. Et donc on a sympathisé et on s'est suivi toute notre carrière, on s'est suivi. J'ai connu ses hauts, ses bas, ses milieux. Il a connu mes hauts, mes bas, mais ses milieux. On s'appelait de temps en temps. Voilà, on n'a pas mangé ensemble tous les midis. Mais on s'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup beaucoup. Et il a écrit un livre. Human Machine.
Que j'ai lu.
Voilà. Et moi, j'habite le quartier, j'habite à Place Victor Hugo dans le 16e, à côté de Janson de Sailly où sont mes enfants. Et Jean était à l'école à Janson de Sailly. Et dans ce quartier, il y a une librairie qui s'appelle Lamartine, qui est le top du top de la librairie. Et tous les gens qui vont à Janson, ils achètent à Lamartine. Et Jean allait dédicacer son livre à Lamartine. Et donc, pour un ancien élève de Janson de Sailly, dédicacer un livre à Lamartine, je sais que c'était un événement, et je pense qu'il devait être assez fier de lui, il peut, de faire ça. Et je me suis dit, bah, tiens, j'habite à 50 mètres, 100 mètres, dimanche, je vais y aller, je vais prendre son livre, et je ne vais pas lui dire, et il va me le dédicacer. Et donc, j'ai été acheter son livre à Lamartine, et là, il m'a dit, ah, super. Et il me dit, il faut absolument qu'on mange ensemble demain. On se voit. Donc, c'était dimanche, et le lundi, on mange ensemble à la station F. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais faire, Alph? Comme toi, c'est dommage. Pourquoi tu recommences pas un truc et tout? Je dis, écoute, je raconte cette histoire des furets. Il dit, si je fais un truc, c'est un truc dans l'assurance. Et voilà. Et puis, il me dit, ah, bah, très bien. Et puis, il me dit, ah, bah, si tu fais un truc, je te suis. Je me dis, Jean, il doit dire ça à peu près
à 200 personnes
par jour.
200
personnes par jour. voilà, donc je le... Moi, je suis pas... J'attendais rien. J'ai besoin de rien, j'attends rien. Je me dis, si je le fais, je le fais. Et puis, il me rappelle le mercredi. Et les gens qui me rappellent deux jours après, alors qu'il est pratiquement impossible à joindre, il dit, il y a quelque chose. Et puis, il me rappelle le vendredi. Il me dit, écoute, Xavier m'a demandé de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Francky Desfossés, qui est mon associé aujourd'hui. Il me dit, voilà, ils veulent faire un truc dans l'assurance. Je leur ai parlé de toi, que toi aussi tu voulais faire un truc dans l'assurance. Il me dit, Ralph, franchement, ça fait du sens. Voyez-vous, j'ai Francky là dans mon bureau. Est-ce que tu veux le voir? Et moi, comme je glandais sur mon canapé toute la journée, depuis 2h30, j'étais bien sûr dans mon canapé en train de glander.
Oui,
je lui dis, bah, écoute, dis-lui de venir. Il est venu chez moi, on a acheté 3M de merde dans le truc d'à côté, on s'est posé, une demi-heure après on s'associe.
Comment ce fit est venu entre toi et Francky? C'était quand même inespéré. Ça s'est fait naturellement? Vous avez travaillé cette relation ou...
En fait, c'était Xavier travaille déjà avec Francky. Moi, je connaissais très bien Jean. Jean, il m'a dit, c'est sûr que ça va fitter. Je me suis même pas posé la question, en fait.
C'était naturel.
Et puis, Francky est arrivé, on s'est tout de suite... On se connaissait sans se connaître. On se connaissait pas personnellement. Moi, je venais du marketing digital. Lui venait aussi du marketing digital. On avait des gens qu'on connaissait en commun. On s'était jamais croisés de notre vie. Donc, on avait des choses en commun. Moi, j'avais une boîte à Barcelone qui fait du marketing digital, que j'ai encore... lui avait sa boîte à Barcelone marketing digital, donc il y avait plein de choses et puis voilà, quand Xavier Niel te dit ça serait bien, quand Jean te dit ça serait bien, tu te dis pas ça sera pas bien.
ça serait bien
surtout qu'il arrivait avec déjà un financement, voilà. Donc moi, par contre, je pense qu'ils s'attendaient pas au projet qu'on a fait. Ils n'étaient pas prêts. Et donc, j'ai juste été leur expliquer que c'était pas... Que là, on s'attaquait à un autre type de projet. Et donc, en fait, au départ, on devait avoir 5 millions. Et je leur ai dit non, avec 5 millions, je vous apporte le café, mais on ne fait pas une compagnie d'assurance comme ça. Du coup, on a levé 30 millions.
Pas que auprès d'eux. On cherchait des copains.
Alors, au départ, Xavier, il a dit ouais, ok, c'est sympa votre truc, mais moi, j'étais ok pour 5, 6, 10, 15, mais pas 30. On va trouver d'autres personnes. Et puis avec Jean, c'est Jean, on a regardé, on a trouvé Serena Capital et Portage. Et du coup, on a levé 30 millions en seed, qui était l'une des plus grosses levées de seed qui n'avait jamais eu lieu. On n'a même pas fait un PowerPoint, on n'avait même pas fait un deck. C'était je le connais, je te connais bien, on se voit, on le fait.
Juste le poids des noms et des expériences.
Et très complémentaire avec Francky. Et voilà, s'il n'y avait pas eu Francky, je ne l'aurais pas fait un truc aussi gros tout seul. Je n'avais pas ni la force ni l'envie. Et voilà, ça fait le vieux con avec le plus jeune loup. Ça peut...
Tout un écosystème
qui fonctionnait, donc ça pouvait que marcher.
Bon, et vous n'avez fait qu'une seule levée pour l'instant, avec une gestion très prudente de cash.
On a toujours été... moi, je n'ai jamais perdu un seul euro. C'est ma cinquième boîte. J'ai fait un cash out tous les 3 ans depuis 15 ans. J'ai jamais perdu un euro. Jamais une boîte qui perdait de l'argent.
Raconte-moi le projet. Toi, t'as amené ta vision du projet. Est-ce que Francky en avait une autre? Est-ce que Xavier et Jean en avaient d'autres? Quelle était la vision, l'ambition et le positionnement que vous cherchiez au départ? Et est-ce que ce positionnement est resté le même ou vous avez eu des pivots?
On n'a pas pivoté.
D'accord.
En fait, le sujet était assez large pour que tu n'aies pas besoin de pivoter, en fait.
Il est multiple.
En fait, on s'est dit, tiens bien, on va changer l'assurance. Rien qu'avec ça, tu as tout dit. Même si tu pivotes, ça ne se voit pas, en fait.
Et entre assurance vie, produits, santé, immobilier,
non, on savait. Alors, par exemple, on en reparlera tout à l'heure, mais par exemple, l'habitation, ce n'est pas le produit sur lequel j'aurais été moi en tant qu'assureur.
D'accord.
Parce que tout le monde sait...
Contrairement à d'autres.
Tout le monde sait que c'est le seul produit sur lequel tu ne gagnes pas d'argent qui est un peu pourri.
Okay.
Donc, naturellement, moi qui fais de l'assurance depuis très longtemps, j'aurais dit c'est pas là-dessus qu'on va aller. Mais comme il y avait toute cette effervescence autour de Luco, de tous ces gens, de Limonet...
Qui existait déjà à l'époque ?
Qui existait déjà à l'époque.
Qui était tout frais, non ?
Non.
En 2016, je crois.
Voilà, nous, cette histoire-là, on dit 2020, c'est plutôt 2021, mai 2021 qu'on a commencé le projet.
Okay.
Quand on a eu notre agrément, qu'on a commencé à faire nos choses. Voilà, donc... Non, c'était simple, c'est Francky qui a peur de rien, il dit moi je vais faire une compagnie, il n'avait jamais touché un contrat de sa vie d'assurance, il vivait en Espagne, il n'avait même pas les contrats français, il a dit je vais faire une compagnie. Moi ça m'a plu tout de suite, je me dis putain le mec,
il n'a pas peur,
on y va. Moi je savais ce qu'il y avait derrière, et peut-être que sans eux, j'aurais dit mais vous êtes des tarés les gars, on ne monte pas une compagnie. Ça n'existe pas.
Personne ne fait ça.
Et dès que j'ai tout de suite dit, OK, go, on y va, militaire. On a des anecdotes mais avec la CPR un peu rigolote où Francky, qui n'a pas peur, il envoie un mail au numéro 2 de la CPR pour dire j'ai un projet, est-ce qu'on peut se voir? Le mec, il dit, on se voit. On n'avait rien préparé, on arrive sur le truc. On se retrouve devant 20 mecs qui nous disent, alors, c'est quoi votre projet? Non, mais on voulait juste savoir si c'était... Ah non, mais les gars, vous n'avez pas compris, on est 20. voilà, donc les trucs se sont passés comme ça. Ensuite, on a fait... moi, d'expérience, une fois, ça ne se passe pas bien, ça ne se passera pas bien deux fois. Donc, on s'est donné un point d'honneur de dire, on est passé... Honnêtement, on est passé un peu pour des rigolos au premier rendez-vous, parce que c'était un malentendu. On pensait qu'on allait juste dire, est-ce qu'on peut déposer? Alors que c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas est-ce qu'on peut, c'est tu déposes et à toi de prouver que t'es capable de le faire.
On voulait, pour avoir l'agrément, tu dis?
Pour avoir l'agrément. L'agrément, c'est un truc de dingo. Hein. C'est les gens
bah oui, mais justement, un truc dingo. Justement, le process, vous l'aviez jamais fait? Enfin, vous aviez déjà Xavier et les fonds derrière?
On avait l'argent.
Sous condition de l'avoir, non?
Alors, en fait, on a levé l'argent en disant, même de notre fait, on a dit, cet argent, on en aura besoin que si, condition suspensive, c'est d'avoir l'agrément. Maintenant, on n'aurait pas eu l'agrément, on aurait quand même levé de l'argent pour faire courtier, on aurait fait MJA comme les gens qui étaient MJA à l'époque, et on aurait pu le faire, et ça, on aurait le fait. Mais voilà, on avait besoin de beaucoup moins d'argent si on était MJA, mais de beaucoup d'argent si on était assureur.
Ouais, avec un enjeu différent.
Avec un enjeu différent. Du coup, on s'est mis à préparer comme des fous cet agrément. Pendant 6 mois, moi, j'ai fait que ça. On avait pris un cabinet parce que c'est assez... Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent bien la CPR, plus que le dossier, mais plutôt bien connaître les gens pour savoir un peu ce qu'on doit faire. C'est plutôt en termes de formalisme que de... Et après, pendant 6 mois, c'est nuit et jour, tu prépares ton dossier.
De la paperasse, pour le coup.
De la paperasse, de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse.
Et c'est, vous étiez sur un créneau plus facile d'obtention que... Enfin, plus facile, plus fréquent de nouvelles agréments? Parce que Alan, par exemple,
alors,
sur un créneau
on
hyper
était,
rare.
Alors, je vais être un peu technique. Alan, ils ont eu l'agrément pour les branches 1-2. Et nous, on a eu l'agrément pour les branches 1-2-8-9-13.
Donc incluant les leurs.
1-2, c'est pratiquement les plus faciles à avoir.
D'accord.
Et 8-9-13, c'est le dommage, c'est l'immobilier, c'est toutes ces choses-là. C'est compliqué. Et donc, ça faisait 35 ans que personne n'avait eu un agrément aussi large que le nôtre. Donc, on a tapé beaucoup, beaucoup plus fort que ce que faisait Alan en termes d'agrément. Et on en a rajouté 2 là récemment. On a eu la branche 16 et 17. Donc là, on est une compagnie costaud avec 7 agréments. Non, on a été tapé encore plus haut pour faire les produits qu'on voulait faire.
D'où la diversité de produits, on verra après.
D'où la diversité de produits.
Parce que pourquoi vous vous diversifiez autant? C'est parce que vous pouvez le faire aussi.
Non, parce que ce que les gens doivent comprendre, l'assurance, la définition de l'assurance, c'est la diversification du risque. C'est la mutualisation du risque. Donc, si tu fais que de l'assurance sur un seul produit, c'est que tu n'as pas compris ce qu'était de l'assurance, en fait. L'assurance, c'est plusieurs risques. Et demain, il y a une tempête, je gagnerai de l'argent sur la santé. Demain, il y a des problèmes de santé, je gagnerai de l'argent sur ma maison. Et puis demain, c'est les smartphones, je gagnerai de l'argent sur mon casse-vol smartphone. Mais tu ne vas pas te dire, tiens, je vais être monoproduit, je vais faire que ça. C'est impossible. En assurance, ça ne peut pas marcher.
Okay. Vous, juste une parenthèse sur le positionnement. Vous êtes allé dans des recherches, des études de marché, pour savoir s'il y avait de la place pour un nouvel assureur, ou pour toi, c'était évident qu'il y avait de la place pour un nouvel assureur, et tu t'es dit, le tout, c'est d'y aller, on ne se pose pas trop de questions.
On a fait zéro étude de marché. C'est la baseline, c'était, on va changer l'assurance, on va faire ça mieux. On a sur nos t-shirts, l'assurance en mieux, c'est un peu prétentieux, mais c'est fait exprès. Voilà, et c'est tout. Donc, même si on fait la même chose que tout le monde, ce qui est le cas, il y a
de la place pour tout le monde.
Il y a du taf. Donc, faire une étude de marché, est-ce que les gens ont besoin d'une assurance auto? T'as pas besoin de la faire. Est-ce que les assureurs gagnent de l'argent? T'as pas besoin de le faire. Est-ce qu'ils ont des systèmes d'information qui sont obsolètes? Faut pas sortir de polytechnique. Tu vois, je l'ai pas fait, mais je raisonne comme eux. Pas besoin de sortir de polytechnique pour comprendre que c'est pas bon. Voilà, ce déclencheur, Francky, son déclencheur, c'est qu'il vient du marketing digital aussi, il a vu les contrats, et quand il est en France, il a vu que c'était un peu... Il s'est dit, c'est pas possible qu'il soit aussi en retard. Et moi, je vendais du lead et l'ensemble des assureurs de la Terre, et j'avais l'impression de donner de la confiture aux cochons, en fait, leur donner des centaines de milliers de leads, et ils transformaient pas. Comme ils auraient dû transformer. Il n'y avait pas de signature électronique, il n'y avait pas de formulaire. Je devais faire des formulaires. Pour certains assureurs, je leur faisais des faux formulaires que je faisais moi à leur couleur.
Tu faisais leur taf, quoi.
Pour
valoriser parce que c'est la matière que tu
pour leur faire du lead, parce qu'ils ne savaient pas le faire eux-mêmes. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, je connais le métier. Moi, j'ai fabriqué des produits quand j'étais jeune. J'étais un peu les stats, l'actuariat, toutes ces choses-là. Donc, je savais faire des produits. J'ai vendu du contrat, je savais faire des sinistres, je faisais du marketing digital. Je me dis, pourquoi je le fais pas pour moi ?
Ouais, tu sais pas ce qui te manque. Là, t'as les fonds. Ok. Une fois que t'as eu l'agrément, champagne shower, non déjà ?
Il s'est passé un truc très drôle. La CPR m'a appelé pour m'annoncer l'agrément. J'étais en train de commander un kebab. Et je me suis dit, je vais être le seul mec au monde qui a son agrément dans un kebab. Et donc, j'étais en train de donner ma commande et le téléphone sonne. Je suis sorti. J'étais bien sûr super très content. Mais en fait, j'étais en train de commander un kebab et la situation m'a fait.
C'était assez UBS.
M'a fait sourire en me disant, on y est arrivé. Et c'était la première chose que j'ai faite. Parce que, chose que j'ai pas racontée, c'est que mon papa est décédé pendant le Covid.
Okay.
C'était pour lui que je faisais tout ça.
Donc, c'était très frais à ce moment-là.
Oui, c'était. Mais moi, en fait, ce projet-là, je l'ai fait en me disant, je veux montrer quelque chose aussi pour mon père, qui a travaillé là-dedans, qui était employé vraiment à l'échelle toute sa vie. Et j'avais envie de lui dire, moi, je vais faire une compagnie. Et c'est la première chose que j'ai été faire. J'ai été au cimetière amener mon agrément
pour lui montrer.
À mon père que j'ai posé. C'est quelque chose d'important.
J'imagine. Bon, et donc, il t'a pas vu t'emballer dans tes. Ou alors, on ne sait pas s'il te regarde.
Il m'a vu m'emballer plein d'autres fois.
Il devait déjà être assez fier de toi. Mais là, le fait que tout prenne forme et aille dans le monde de l'assurance, dans ce monde-là, il aurait été assez impressionné. Raconte-moi les deux années qui ont suivi cette obtention d'agrément. Parce que, deux années et demie ou trois,
une fois
bientôt,
que tu as l'agrément, c'est la merde. C'est le début des emmerdes.
Donc là, tu peux aller appeler tes investisseurs en disant « on l'a, on y va ».
Ben là, on débloque l'argent, on y va, on recrute.
Par quoi ?
On recrute. Alors, c'est le plus dur a été quoi ? C'est que faut pas oublier, nous, on monte à Chile, c'est premier confinement. En fait, on a notre agrément en mai 2021. On dit, on va, et pendant qu'on est en train de faire à Chile, on lève les fonds avec Xavier. Les premiers déblocages, c'était avec Xavier. On se dit, on va lui montrer qu'on est bon. À peine reçu les fonds, on se met en mode kamikaze, on trouve des locaux, mais en une demi-journée, on trouve les locaux, deux jours après, confinement total.
Donc, t'as signé un bail.
T'as signé ton bail. Tes trucs, t'as voulu faire le grand en disant, t'as vu, regarde, on est cap, nous, on se bouge, on est là, on a nos locaux.
La boîte
avancer.
Existe.
La boîte existe, boum, confinement total. Donc du coup, on n'a pas vu les locaux. Appelle des mecs pour leur dire « Salut, c'est Ralph, on ne s'est pas vu depuis longtemps, tu vas démissionner de chez ta grosse boîte d'assurance, plein Covid, pour aller voir Achille, une nouvelle compagnie qui vient d'arriver et on n'a pas encore l'agrément. »
Oui, ça ne fait pas rêver grand monde.
Ça ne fait pas rêver grand monde. Il y a eu des gens qui l'ont fait. Il y a notamment Franklin Bitbol, un jeune actuaire très très prometteur, une star dans son domaine, dans le truc, qui a dit « moi je viens », qui a démissionné d'un super gros groupe, qui nous a tout de suite suivis et autres. Donc c'est l'audace, c'est important, la prise de risque, et c'est des gens courageux. Le courage, pour moi,
après, c'est... Après, t'as un effet boule de neige, les premiers entrées de maison.
Donc lui est arrivé, ensuite on a trouvé la CTO. Après, on a tout de suite mis en face sur l'UX. Donc, sur 6 personnes, on avait 3 UX pour commencer à arriver avec un produit fini. Et puis après, c'était un peu moins dur. Maintenant, je vous avoue que c'est beaucoup moins dur pour recruter.
Ouais, j'imagine. Le nom Achille, j'avais pas fait tout de suite le lien avec Alan. Est-ce qu'il y en a un ? Il est arrivé comment, ce nom ?
Non, alors c'est. Il est arrivé, j'étais pas là. C'est Francky qui l'a trouvé. Okay. Il avait même, quand je suis arrivé dans le projet, ça s'appelait déjà Achille pour Francky.
Ah bon? Quand...
Et donc, Francky travaillait avec Xavier depuis longtemps. Achille, c'est le héros de Iliad. Iliad, c'est la maison mère
de Free.
De Free. Et donc voilà, voilà pourquoi Achille.
Bon, ça me parle. Moi, j'ai un de mes enfants qui s'appelle Achille. Donc, beau prénom, mais il y a un lien avec Alan quand même, qui est quand même pas anodin. Enfin, qui est pas anodin, si, visiblement. Mais qui est pas loin.
Il n'y avait pas de rapport du tout avec Alan.
Bon. Et tu peux nous donner les chiffres d'Achille pour qu'on se rende compte un peu de la dynamique et de tout ce qui s'est passé en 3 ans. Peut-être alors, parler du nombre de produits, mais d'essayer de partager cette dynamique dans laquelle tu es.
Ouais, ça, c'est fou. Achille, aujourd'hui, on a clôturé les comptes il y a une heure. Donc, je les ai bien en tête. Au 31 décembre. 2023, Achille, c'est 157 millions de primes émises.
Okay. C'est beaucoup. Ça a doublé en un an ou...
Oh, beaucoup plus que ça. On a fait 23 millions la dernière fois. Non, on a fait 23, 119 et la 105.
J'avais 80 en tête, oui.
70 dans l'arc, donc ça fait 23, 70 et la 157. C'est 500 000 personnes couvertes par Achille, donc on a 500 000 assurés. C'est presque 400 000 contrats. Et c'est entre les écritures comptables et autres, c'est entre 1 million et 2 millions de résultats.
Ok, chapeau.
Pour une boîte qui crée une compagnie d'assurance, Alan a lancé ses chiffres aujourd'hui. Ils sont à moins 69 millions et ils étaient à moins 80 millions toutes les autres années.
Quoi, moins par rapport à vous ou moins?
Non.
De pertes.
Ils perdent 80 millions par an ou 60 millions. Je crois que c'est 60 millions ou 69, je ne sais plus. Tout le monde a perdu de l'argent. Tout le monde perd de l'argent dans des métiers comme les nôtres. Et nous, on a gagné de l'argent dès la première année. On a commencé à gagner de l'argent. Et sur les 30 millions qu'on a levés, on en a dépensé que c'est beaucoup d'argent, 8.
C'était à 5 il y a quelques temps. Donc voilà. On avance prudemment.
Voilà.
Et il en reste. Alors, c'est quand même assez étonnant ce que tu racontes. Parce que je ne sais pas si c'est typique d'une génération d'entrepreneurs ou d'une époque, mais bon, le but, ce n'est pas de casser du sucre sur Alan, c'est juste de comparer des modèles et aussi de parler d'approche entrepreneuriale. Tu es dans une boîte rentable et peu dépensière versus des boîtes qui burnent beaucoup et qui perdent beaucoup. Est-ce qu'il faut s'attendre à un effet de levier énorme parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très lourd qui va porter ses fruits? Ou non, ou soit tu es sceptique sur cet aspect-là, de dire, bah en fait, non, la profondeur du trou qu'ils sont en train de creuser n'est pas proportionnelle au succès qu'ils vont en sortir derrière?
Mais moi, déjà, je trouve qu'ils sont bien meilleurs que moi. Parce
sur
que
quoi?
Les mecs, ils crament 60 bars par an et ils valent 2,4 milliards. Moi, je gagne de l'argent et je ne vaux pas 2,4 milliards.
Et tu penses que c'est de la vraie valo ou c'est de la valo fictive?
Quelle que soit la vraie ou fausse, c'est de la valo. C'est-à-dire que...
Et la valo, on compare des carottes avec des carottes ou des choux avec des carottes, là? Vous êtes la même type de boîte ou non, il y a
on
un projet...
La... Non, on est la même type de boîte. Je fais la même chose que...
Oui, mais alors tu fais la même, t'es plus rentable, t'as plus d'utilisateurs.
Ils sont plus forts que moi.
Pour valoriser ça comme
pour
ça,
pour valoriser ça comme ça, ils sont plus forts que moi. Okay. Voilà, donc...
Bon, ouais, tu serais un investisseur extérieur, tu mettrais peut-être...
Je mettrais pas un euro là-dedans.
Tu mettrais pas un euro là-dedans.
Non, ça...
Voilà. Parce que là, le niveau de valo, il est quand même démentiel.
Voilà, mais faut l'avouer qu'ils ont réussi à le faire. Ils sont très, très forts. C'est, leur produit, en termes de delivery, il est incroyable. On peut dire tout ce qu'on veut. L'outil est bien. Et ils valent 2,4 milliards. Ils sont plus gros que moi. Voilà. Et nous, dès le départ, moi je n'arrive pas à cramer de l'argent. Le mien, je le crame. Mais l'argent des autres, je ne le crame pas.
Et d'un point de vue, juste comme ça, ton analyse sur comment est-ce qu'on arrive à perdre moins 60, voire moins 80?
Je sais pas.
Parce qu'il faut que je les mette. C'est dans la tech, c'est dans la diversification, ils ont aussi du mental à elles, ils ont racheté des boîtes.
Ils ont fait... Non, je ne sais pas. Alan, je ne connais pas bien.
Bon, ils ont l'investissement dans ChatGPT, dans le Mistral AI, qui peut peut-être compenser une partie des
Je comprends, je ne connais pas bien. Mais, bon, mais oui, mais c'est...
Tu ne sais pas analyser cette perte-là et tu ne la vois pas concrètement sur le terrain en termes d'avantages compétitifs.
C'est pas que je ne sais pas l'analyser, c'est que ça m'est impossible pour moi même d'envisager. Donc
toi, depuis Day One, en 3 ans, tu as dépensé 8.
8. On a eu un agrément. Déjà, un agrément, il y a des gens qui dépensent presque un ou deux juste pour l'avoir. Mm-hmm. On a créé un outil de gestion, un outil de souscription, un outil de sinistre. On a créé 500 000 assurés, on a coûts d'acquisition compris. Hein, je parle de, on a, parce qu'il y a des gens qui enlèvent des fois les coûts d'acquisition dans tout ça. Moi, je vous parle de factures Google, AdWords, tout compris. On a dépensé ça.
Bon, bah écoute, c'est assez impressionnant. Et je pense que tu dois en laisser sceptique plus d'un. On les a reçus, hein, tes confrères. On a reçu Charles Gorintin d'Alan il y a quelques temps. On a reçu. D'ailleurs, Benjamin Guignou aussi, qui s'est improvisé assureur sur la fin de son projet Ornicar, que tu as peut-être suivi, plus dans le monde Gen Z et automobile. On a reçu Benoît Bourdel, le CTO et co-fondeur de Luko. On a pas mal entendu parler de Luko, enfin, pas mal. Moi, je ne sais pas beaucoup entendu, mais j'imagine que tu as été pas mal sollicité sur le sujet. Parce que vu de l'extérieur, on pourrait dire, bah, en fait, on les met tous à peu près dans la même catégorie. Ça, c'est ceux qui n'y connaissent rien comme moi. Après, quand on regarde un peu dans le détail...
Vous êtes beaucoup, alors.
Oui, je pense. Ça, t'as dû constater. T'as dû constater qu'il y a une évangélisation à faire. Déjà, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont fondamentalement différentes. c'est que vous, vous avez une licence d'assureur, là où une société comme Luko n'en avait pas. Et moi, j'avais été assez fasciné, quand j'ai rencontré Benoît, de découvrir qu'on pouvait monter ce qui s'apparentait à être un assureur qui était en fait un intermédiaire, en utilisant des produits d'un autre assureur sous forme de marque blanche, on les appelle Luko, mais derrière, en fait, tout ça est revendu, une fois que l'acquisition est faite sur le portail, à un autre assureur, chez qui, en fait, le contrat est délégué. Et ça, ça m'avait fasciné, je me suis dit, ah oui, on peut faire ça.
Il y en a des, aujourd'hui, la moitié des contrats que les gens achètent, c'est comme ça.
C'est pas
tu assureur. Tu regardes des Villavie, qui est dans Excessive Sud 2000, des April, ces gens-là, ils n'étaient pas assureurs, c'est des courtiers. Donc on a énormément de courtiers qui font ça.
Et les gens savent pas trop qu'on s'appelle
personne
un courtier.
Personne, dans la tête des gens, c'est un assureur.
C'est un assureur.
Mais c'est des courtiers.
Ok. Et bon, ça c'est on pourrait peut-être s'arrêter là quand on compare un Luko ou un Achille. Quels sont les autres éléments si on devait se dire mais Luko a fait faillite, pas complètement. Par chance,
pas complètement.
Non, mais on est passé pas loin.
Je pense que c'est pas tout à fait de leur faute tout le temps. Pas 100% de leur faute.
Tu penses aux investisseurs derrière qui...
Je pense à vos investisseurs, je pense au système, je pense à cette frénésie, ou je pense à cette jeunesse, je pense à ces études dont tu citais. Moi, je suis plutôt fier de ne pas l'avoir fait, plutôt que le contraire. Toute ta vie, on te dit que t'es le meilleur et que tu risques rien et que tu vas écraser toute la Terre. Bah, c'est peut-être tout ça, cette remise en cause de l'argent facile, de
le mouton aussi.
On peut rien nous arriver. Voilà. Donc, moi, je pense pas. Je suis. Je le dis toujours. Nous, on a été très emmerdés avec cette histoire parce qu'on nous a beaucoup, beaucoup comparé à Luko. Ouais. Et du coup, dans la tête des gens, c'est les prochains. Les investisseurs que ça ne marche pas.
Par chance, t'avais pas de fonds à lever. Donc, vis-à-vis des investisseurs, t'aurais été un peu emmerdé si t'avais dû lever des fonds.
Non, parce qu'à mais à un moment, même, sans, on s'est mis à vouloir lever des fonds parce que quand l'argent était facile, tu sais, faut pas être con quand l'argent est gratuit et facile, faut la prendre. Et donc, j'ai essayé de la prendre, mais on n'a pas pu. Parce qu'on arrivait pile dans ce moment-là où on a arrêté.
T'aurais pu racheter d'autres choses,
rien,
je sais pas.
Si,
au moins, tu l'as.
Au moins, tu l'as. Tiens, vaut mieux que tu l'auras. Donc au moins tu l'avais. L'argent était pas cher, était facile à avoir, ainsi de suite. Donc à une époque où on te dit crame, dépense, fais du contrat, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort, ben, je trouve ça normal que la personne elle, se fasse griser et qu'elle le fasse. Et quand tes investisseurs disent fais-le, ben, tu le fais. Quand t'as 25 ans.
Il faut être courageux de dire non, les gars, non, tu le fais pas.
Je dis quand t'as 25-30 ans. D'autres personnes de mon âge ne l'ont pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne nous a pas dit de le faire.
Ouais, mais...
Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est triste, moi je le dis toujours, j'aurais préféré qu'ils se vendent 600 millions, ça voudrait dire que moi je vaux, je vaux 2 milliards. J'aurais préféré ça. Et c'est une très 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 bonne affaire pour Allianz. J'étais même étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes que ça positionnait.
Toi, ça t'a pas traversé l'esprit?
Non, parce que...
Ça t'aurait pété ton modèle, c'était pas du tout
ça. On faisait mieux, pour moins de monde, moins cher. Je vais pas me rajouter... Nous, on est 50 personnes, on avait plus de contrats que rentables, je vais pas acheter 113 personnes.
Donc tu n'as pas besoin de tout de suite.
Aucun intérêt. Par contre, ça aurait été super de racheter le portefeuille uniquement et de pas prendre les salariés, mais c'est pas l'ADN d'un Achille de dire non, moi je mets tout le monde dehors.
C'est clair.
Et je prends les trucs. Donc c'est même pas positionné. On n'a même pas regardé le dossier, qui aurait pu être logique qu'une boîte comme la nôtre le regarde. Mais je savais très bien que je prendrais pas les salariés. Donc j'ai aucun intérêt. Je voulais pas regarder le dossier pour ça.
Ouais, ça aurait été humainement très dur et peut-être aussi en termes d'image très dur, même si tu sauvais potentiellement les clients et le portefeuille.
Oui, mais le plus important dans cette histoire, ce n'est pas les clients et le portefeuille. Les clients, ils changent en 30 secondes, c'est plutôt les salariés.
L'équipe, il y avait des talents, c'est clair.
Qui ont bossé comme des fous pendant plusieurs années, les fondateurs, tout le monde a bossé dur.
Donc si je récapitule, en tout cas, les différences...
Mais non, je ne vais pas faire de langue de bois, est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Des tonnes.
J'imagine. Voilà, tu parlais déjà de la diversification produit.
Déjà, faire que de l'habitation, c'est une erreur. Vouloir se lancer assureur quand tu l'as jamais été, et pas depuis le début, c'est une erreur. Parce qu'en fait, c'est des process et des coûts et des compétences qui sont aux antipodes de ce qu'on connaît déjà. Et donc, c'est très compliqué pour eux. Donc il a fallu faire ça. Acheter Uncle, c'est une énorme erreur. Voilà, toutes ces choses-là, mais...
Erreur pourquoi d'ailleurs ? Parce que tu penses à la diversification nationale qui est déjà compliquée ou parce que Uncle en particulier ?
Parce qu'ils l'ont payé cher, ils n'avaient pas l'argent pour le faire. T'achètes pas quand t'as pas d'argent, t'achètes pas en fait.
Je crois que d'ailleurs les grands gagnants de l'histoire, ce sont eux, parce que la dette de la boîte, c'est ce qu'ils doivent aux fondateurs de Uncle.
Aujourd'hui, voilà, on a toujours appris, si t'as pas l'argent, t'en as pas envie, t'achètes pas. Voilà, donc après, et puis après, monoproduit. Après, ils ont diversifié un peu, ils ont fait un peu autre chose. Et l'habitation, c'est un produit qui est pas super rentable.
Toi, tu l'avais vu venir, ce crash ? Ou tu l'as vu, comme tout le monde dans la presse ?
Je sais plus quoi dire, moi, parce que bien sûr qu'on l'a vu venir et qu'on savait, qu'on sait que c'est pas logique. Tu peux pas payer aussi cher des contrats qui rapportent aussi peu. Moi, je peux. Bah, après, bon, je vais peut-être me faire engueuler de dire ce genre de choses, mais quand on allait faire des présentations, on allait présenter notre truc, on nous disait, mais vous avez vraiment pas d'ambition, vous êtes nuls à côté de. Du coup, eux, leur
ouais,
client.
Vous faites pas rêver, quoi.
Eux, leur client, il reste 7 ans. Et moi, je disais qu'il restait 3 ans. Je dis oui, mais alors à un moment, j'avais mon fichier Excel devant eux, en train de leur montrer, je dis ah oui, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai tapé dans la cellule, j'ai marqué 7 ans, je dis voilà, maintenant il reste 7 ans. Je dis mais moi aussi je peux marquer 7 ans sur un fichier Excel. Si ça vous rassure que je marque 7 ans, mais donnez-moi un seul mec aujourd'hui avec des produits que tu appuies sur un bouton, tu le changes en 4 secondes, avec de la résiliation en temps réel,
qui reste
7 ans, ça n'existe
pas.
C'est
marginal, oui.
Donc en fait, quand vous vous mettez à payer 3 ans, 4 ans un contrat, alors que ça va rester, alors que on sait qu'il va rester, le coût d'acquisition c'est 3-4 ans, alors qu'on sait qu'il va rester 3 ans, on peut pas gagner d'argent. Et ça, je parle pas de locaux, hein, je parle de plein de monde, hein, je pense
du système. Modèle,
et ouais. Donc voilà, c'est peut-être avant un client il restait 7 ans, aujourd'hui un client il reste pas 7 ans.
Ouais. Et votre diversification produit, tu l'as dit tout à l'heure. Elle est quand même assez large, parce que vous êtes dans différents verticales, sur du B2C, du B2C, vous êtes hyper diversifié.
42 produits.
42 produits.
Oui. Et on fait du B2C. En B2C, on fait de l'auto, de l'habitation, de la santé, du chien-chat, du propriétaire non-occupant et de l'emprunteur. Et en B2B2C, c'est-à-dire qu'on fabrique des produits pour le compte de tiers que eux distribuent. Donc on travaille aujourd'hui avec les plus gros courtiers de la place... distribue nos produits, et là on fait de la santé, du casse-vol audio-prothèse pour les audio-prothèses, téléphone mobile, vélo, facture, on fait
Qu'est-ce
tout.
Qu'est-ce qui guide cette diversification ? C'est vos études, vos partenaires qui vous disent non, là il nous faut un truc, vous pourriez faire ça ? Ou c'est vos clients qui vous disent...
Salut Franquin, j'ai un produit, tu sais faire, oui on sait faire. Salut Ralph, j'ai un produit, tu sais faire, oui on sait faire. Salut Francky, j'ai ça, est-ce que tu fais ? Oui on sait faire. Voilà, c'est... On a fabriqué une usine
à
tech à produire du produit, ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'un assureur traditionnel, il met entre 12 et 18 mois à fabriquer un produit.
Oui,
nous, on met 2 mois. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, tu as une idée. Si tu attends 18 mois avant de la sortir, mais tu peux la mettre à la poubelle. Dans 18 mois, le monde, il a changé.
C'est ce qui te donne l'avantage par rapport aux gros groupes qui doivent valider machin et autres. Tu sens qu'ils sont sclérosés là où toi, tu es hyper agile.
Ah oui, c'est... D'ailleurs, on a beaucoup de mal à recruter. On ne recrute pas des gens qui viennent des grands groupes parce qu'on n'arrive pas à travailler avec
des biais. Quoi.
C'est impossible. La phrase qu'on déteste le plus au monde chez Agile, c'est « Ah, bah avant, on faisait comme ça. » Oui, mais maintenant, on fait autrement.
Comment se passe la relation avec tes investisseurs, toi, aujourd'hui ? J'imagine qu'elle est très bonne.
Elle est très bonne.
Xavier, tu as toujours des contacts avec lui et Jean, et alors, à quelle fréquence, qu'est-ce que vous vous dites ?
On a des contacts réguliers. Alors Jean, j'ai cette chance d'avoir cette relation ouais. où quand je lui envoie un message, il me répond.
Peut-être qu'il fasse track. On va voir.
Et il est plutôt présent. Et il répond présent quand on a besoin de lui poser une question. On n'est pas, et Francky et moi, on n'est pas des relous à poser 10 milliards de questions.
Des grands garçons.
On est des grands garçons, donc on préfère plutôt faire sans qu'avec. Xavier, on l'a vu beaucoup au début, où on se voyait régulièrement avec Jean, on faisait un petit point, voilà. Et nos autres investisseurs, on les voit régulièrement, Portage et Serena. On les voit une fois par mois pour parler de ce qu'on fait. Et voilà.
Bon, bah écoute, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont tous aussi fiers que Jean, mais tu as réussi à faire des gens qui sont embarqués dans son histoire et très fiers de ce que vous êtes en train de faire. C'est impressionnant. J'ai besoin de t'entendre sur la partie tech. Parce que on a parlé beaucoup de l'assurance. Ton autre toit, c'est l'acquisition, le digital, le marketing digital. Et j'aimerais bien savoir, je suis sûr que c'est un élément game changer dans ton efficacité aujourd'hui, dans ton organisation. Et tu as voulu mettre un peu toute ton expérience là-dedans, j'imagine. Ça s'est traduit comment ? Et quelle vision tu avais de cette place de la tech et du digital ? Et quels ont été les choix et l'approche que vous avez sur ces plans-là ?
Alors, la personne qui gère le marketing chez nous, c'est Francky.
D'accord.
Ouais, parce que, comme je t'ai dit, on venait du même...
C'était votre univers
à tous les deux. Et lui était plus dans le... Moi, j'étais dans le marketing digital d'avant, et lui dans le marketing digital de maintenant, et la somme des deux, ça fait un marketing digital un peu bon. Et donc là, aujourd'hui, toute l'acquisition, tout ça est géré par Francky. On n'a pas de direction marketing chez Hachi. Okay. Moi un petit peu et Francky beaucoup, on gère ce genre de choses. On connaît par cœur tout ça. Donc, on nous a payé pendant des années pour acheter du trafic pour les autres. Donc aujourd'hui, on se l'achète pour nous.
Mais avec cette capacité à mieux l'exploiter maintenant.
Mécaniquement, on paye 30% moins cher que les autres. En fait, parce qu'en fait, c'est ce qu'on facturait. On facturait 30% nos services. Donc aujourd'hui, quand on s'achète pour nous-mêmes, on paye 30% moins cher. Donc on est déjà 30% plus efficace.
Est-ce que tu peux nous parler de la mécanique ou des solutions, des outils, de la tech que vous utilisez ?
Alors,
ou de l'approche que vous avez ?
On a une approche très très héroïste. Tu vas pas t'étonner de tout ce qu'on achète. Donc on est très dans la data. On est capable de jouer avec tous les indicateurs. On connaît très bien le monde des comparateurs, par exemple. Donc, en fait, tous nos concurrents, ils savent pas trop les rouages. Moi, j'ai été propriétaire de plusieurs comparateurs. Je connais tous les gens.
Tu sais comment t'arrives en tête.
Exactement comment t'arrives en tête. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais quand je vais être premier, quand je veux pas être premier. Des fois, on décide de pas être premier. Ça, c'est des astuces que les gens n'ont pas, ne connaissent pas. Et c'est pas les comparateurs qui nous les donnent parce qu'ils ont pas l'intérêt de nous les donner. Et il y a même certains comparateurs qui ont changé leur modèle à cause de nous. Parce qu'en fait, on est arrivé tellement premier que tous les autres leur disent ben non, mais du coup, il n'y a plus de game, comment on peut faire ? Donc, ils sont revenus sur la garantie, plus sur le prix. Ils ont essayé de trouver des solutions pour changer ça. Mais nous, on arrive à jouer à ça. Dans l'acquisition, ben, on est capable d'acheter mieux si c'est pour Google et de changer nos tarifs ou de changer nos produits ou d'avoir des choses différentes en fonction du canal d'acquisition que très peu de personnes sont capables de faire. Mais le nerf de la guerre, c'est pas ça. C'est plutôt la machine à fabriquer les produits et le back-office qu'il y a derrière. Et pour moi, la vraie force d'Achille, c'est ce back-office de dire.
Tu peux me donner un exemple d'un truc où tu t'es dit waouh, là, on touche un truc, on a craqué un truc pas mal. Un exemple de.
C'est un truc qu'on utilisait, que j'utilisais déjà dans les autres. C'est-à-dire que. Mais. Moi, j'ai vendu un comparateur en 2011. Aujourd'hui, les comparateurs, ils n'ont même pas cette tech.
Ils n'ont pas quoi ?
Ils n'ont même pas la même tech que j'avais en 2011. Tant mieux, je ne vais pas expliquer mille fois les trucs, mais nous, on paramètre tout. Tout est en microservice, tout est en API, tout est... Ben non, j'ai plein de gens, c'est pas encore comme ça. Donc, il n'y a pas un truc, on s'est dit, tiens, on a réinventé le truc, c'est... Aujourd'hui, prends un jeune qui sort de l'école, tu lui demandes de te faire un truc, t'hallucines en fait, ce qu'ils sont capables de faire en 3 jours, ce qu'il te fallait 8 mois avant avec un hôtel, je sais pas si toi t'as ça dans ton truc, mais...
Et après, il y a aussi toute la tech, les AWS, non, mais les AWS, services,
non mais t'as tout, c'est aujourd'hui,
si tu sais les exploiter,
si tu sais taper sur Google et faire des recherches ou aller sur le web et te dire comment je fais ça, ben, un jeune aujourd'hui qui sort de l'école, il fait des trucs que t'as même pas rêvé faire avant. Eh ben, tant qu'il y a des gens qui restent dans la vieille école et disent non, mais moi, je veux que ça soit solide, je veux que si, je veux ça. Il y a pas longtemps, j'étais à rendez-vous, le mec m'a vanté la S400 en me disant, mais on n'en changera jamais, c'est le meilleur truc du monde.
Ça fait plaisir à entendre.
Ça fait plaisir à entendre, mais tu te dis, mais attends, à S400.
Donc tu te dis que t'as une petite longueur d'avance.
Voilà, non, mais en plus, des trucs qui marchent bien et tout, il te dit, non, mais nous.
Bah, si tu veux pas bouger, c'est bien.
Oui. Et donc aujourd'hui, quand tu vois ce qu'un jeune est capable de faire en sortie d'école, T'as des gens, tu lui dis, tiens, fais ça. Ah oui.
Mais alors, du coup, il y a une phase d'idéation aussi en interne où vous vous dites, mais attends, en sachant faire ça, on pourrait faire ça. Ah ok, donc on pourrait faire
ça. En fait, moi, j'ai toujours considéré que la tech, c'est un moyen. Mais en fait, c'est pas la tech qui est importante, c'est qu'est-ce que t'as demandé aux techs de faire. Et c'est ça qui est... Il y a plein de gens, c'est pas la tech qui drive le business, c'est le business qui drive la tech. Et souvent, t'entends trop, bah non, la tech peut pas le faire, donc on va pas le faire. Non, je m'en fous, moi, on veut ça, on trouve une solution pour le faire, mais c'est le business qu'on va faire, c'est pas de la tech. Donc aujourd'hui, du bon sens, du paramétrage, on refait pas un truc deux fois. Si on t'a posé deux fois la même question, bah tu l'automatises. Si on t'a demandé deux fois les mêmes bordereaux, tu l'automatises. Si ton produit va changer quatre fois par an, eh ben c'est pas dur dans le code, ton produit, il est paramétré. Si tu sais que ça va changer, ça va changer, ça va changer. Donc, le paramétrage à outrance de tout, c'est ce qu'on a chez nous. Ça a énervé pas mal de gens au départ. Même mes techs, ils me disent, mais Ralph, ils ont perdu du temps à paramétrer. Pourquoi ? Ils disent, mais non, mais le monde de la science, vous vous rendez pas compte,
c'est
en
ça.
Fait.
C'est ça.
Ça change tout le temps. Et en fait, dans un monde idéal, le client, il signe son contrat, il a choisi les bonnes garanties, il connaît le nom de ses enfants, il connaît son prénom, et... mais non. On en a qui sont trompés dans le nom de leur prénom, du prénom des enfants, on en a qui n'ont pas signé, on en a qui disent « Ah ben, je voulais que ça commence le 3, mais finalement, je veux que ça commence le 2 ». Il y en a qui te disent « Ben, j'ai pris le vol, mais je veux plus le vol, je veux le bris de glace. Ah ben, j'ai pris le bris de glace, j'ai pris cette franchise, mais j'en veux une ». Il y a tellement de combinaisons possibles.
C'est presque dans l'expérience client, la facilité que tu vas offrir à changer...
Mais il faut que l'outil puisse le faire.
Ouais,
par
ouais.
exemple, quand tu posais la question pourquoi on voulait être assureur, on voulait être assureur pour ne pas être tributaire d'un système d'information pourri d'un autre assureur. Parce que quand tu es courtier, ce n'est pas toi qui mets de ton produit, donc ils ont envie de le changer.
Je crois que le point de départ d'Alan, c'était ça aussi, c'était de se rendre compte de l'archaïsme des systèmes d'info qu'on avait en face, en disant, ah oui, en fait, il y a peut-être moyen qu'on le fasse nous-mêmes.
Exactement, c'est exactement ça. Et donc, il faut le faire soi-même. Et faire soi-même, ça ne veut pas dire que faire le produit. Ça veut dire, si tu fais ton produit, il faut que tu aies ton outil informatique qui va avec ton produit.
Mais tu vois, c'est une question que je posais à Luco, mais pourquoi est-ce que les grands groupes qui ont une force de frappe énorme, pourquoi eux ne cherchent pas à créer ça? Parce que même si c'est complexe et que ça prend du temps, pour un Allianz ou un grand groupe, ça semble accessible. Pourquoi est-ce que cette
Parce que c'est très
génération-là...
Là, je fais mon malin en disant, on a monté ci, on a fait ci, mais moi j'ai hérité de aucun...
Legacy,
j'ai hérité d'aucun problème. J'ai pas 4 millions de clients. Si je touche sur un bouton, on a une autorité de contrôle. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc, ils envoient le mauvais avis d'échéance à un client. Ils envoient le mauvais truc. Ils se font défoncer. Et ils peuvent plus bouger. Allianz, c'est l'achat de PFA, AGF. C'est 10 systèmes d'information différents. T'as les clients qui sont dedans. On a essayé de faire en sorte que ça. Mais, donc, c'est vachement facile pour moi de me la raconter, de dire non, mais moi j'ai tout construit.
Ouais, mais c'est
en sachant ce qui. Mais ils le feront pas.
Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui.
Ils rachèteront une boîte comme la nôtre,
ouais.
qui mettront de côté, j'espère, et qui laisseront vivre et qui fera. Mais d'ailleurs,
peut-être
ils ont racheté
un système de vase communicant en passant un peu les
petit,
systèmes.
Petit à petit, mais aujourd'hui, après, il y a, je sais pas, 500, 600, 700 informaticiens, t'en fais quoi?
Ouais. Après, il faut aussi mettre en perspective la part de marché. Je sais pas si tu. T'as une idée de ce que tu représentes en termes de part de marché sur le marché ?
Aujourd'hui, je pense que je fais plus de contrats qu'en habitation par jour.
Ok. Ça reste marginal, j'imagine.
En termes de portefeuille, je suis un nain.
Mais
dans le trend, je fais plus de contrats nouveaux, parce qu'en fait, eux, ils en font, mais il y a des pertes et des gains. Moi, vu que je n'ai pas de pertes, puisque je suis tout nouveau, j'ai que des gains. En habitation, on en fait plus.
Bon.
Mais en part de marché, je suis ridicule.
Ouais.
Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps.
Tenez-vous bien. Tout ça, c'est sympa. Le marketing, le digital, la tech. Je pense que rien ne serait possible sans une équipe qui a l'air d'être assez soudée, assez particulière, avec une culture forte, avec des valeurs fortes. Et j'aimerais que tu me la décrives un peu, cette culture, qui se dégage, je trouve, une certaine humilité, simplicité... mais en même temps, une vélocité de tout ça. Cette culture, et ça a été naturel parce que ça a ruisselé de la tienne et celle de Francky, ou c'est quelque chose que vous avez travaillé?
Je sais pas. Je pense pas qu'on l'ait travaillé. Et je pense pas que ce soit naturel non plus.
D'accord.
Je sais pas comment expliquer les choses, c'est un peu des deux. c'est déjà... et Francky et moi, c'est pas notre première boîte. Et on n'a plus envie de se faire chier à travailler avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler. Ça, c'est déjà un premier... Ça peut paraître fou, mais des fois... Alors, il y a une phrase que je dis toujours, moi, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, dès qu'on a le moindre doute, il n'y a pas de doute. Okay. Et ça, c'est important.
Tu sais, tu te connais, tu connais tes tripes, quand ça te parle, ça te parle.
Sait que des fois, combien de fois, sûrement toi, dans tes boîtes, t'as pris quelqu'un, tu t'es dit, ça va pas, mais attends, si je l'enlève, je suis dans la merde, je vais le garder quand même, il va peut-être s'améliorer. Non, ça marche jamais. En fait, moi, j'ai 52 balais, c'est ma cinquième boîte, j'ai jamais vu une fois que ça s'est amélioré. Quand ça va pas, ça va pas. Et donc, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de faire... Non, et même c'est bon pour tout le monde, en fait, de voir avec la personne et de dire, écoute, on n'est pas... Ça ne va pas le faire ou c'est pas bon. Donc, autre chose aussi qui est important, c'est qu'on n'a pas... On n'a pris que des gens plutôt jeunes à qui on a donné une opportunité de dingue, plutôt que des super seniors qui se sont dit, je suis arrivé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le... Okay.
Et genre, donc, tu dois créer ce poste-là, mais on t'autorise, versus tu l'as et voilà, tu
donc on a
gérer,
été, par exemple, dit n'importe quoi, on a créé un service sinistre, jeune et milliardaire, super brillant, super doué, mais N-3 dans son organisation, il dit, c'est toi qui vas être le boss de ça.
Il voit très bien de quoi
ça
parle.
Et le mec, c'est... Et il cartonne. On a fait pareil dans plein de services. La conformité, on a Pauline, une fille incroyable, elle était conformité, elle se voyait jamais patronne de la conformité, on lui dit, tu seras patronne de la conformité, elle bosse jour et nuit, elle sait pourquoi elle est là, et voilà, et c'est ça qui fait qu'on le fait, et on n'a pas été dire, non, je vais prendre quelqu'un qui l'a déjà fait pendant 10 ans, il va venir faire, non, moi ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui fait avec ses tripes, et qui se dit, tiens, je vais le faire, donc on a ça pour le service client aussi avec un Timilien, on a ça dans plein de services. Notre CTO, par contre, très, très expérimenté, parce que dans une boîte comme ça, tu peux pas...
L'assurance ou pas du tout?
Pas du tout. Okay. Il venait du New York Stock Exchange pendant 14 ans, après d'une boîte qui faisait du paiement plutôt finance.
Donc, transactionnel.
Voilà, donc oui, c'est les services en UX, on a pris JN... Tout de suite, on a pris l'UX, pareil, on a pris quelqu'un de très expérimenté, tout de suite. Mais après, sur toutes les parties assurantielles, on a plutôt pris... Après, je t'ai parlé de Franklin, il est actuaire et commercial en même temps, super connu dans son milieu, très fort, mais jeune.
Et les valeurs humaines, tu vois, la dynamique, il y a des marqueurs dans votre... qui font qu'il y a une culture, un ADN Achille.
Ouais.
Et ce serait quoi ce marqueur?
C'est assez... on est très... alors, on a Marie Blanche, qui est notre patronne com, marketing et autres.
Salut.
Que tu salues. Qui est très... je fais attention à tout le monde. Je fais du vélo. Attention à l'empreinte carbone. Enfin, attention à tout ça. Et du coup, c'est très comme ça dans la boîte, en fait. C'est très RSE, pas parce que c'est la mode, parce qu'ils le sont vraiment. Les jeunes maintenant, ils sont vraiment comme ça.
Ils en ont besoin.
C'est ça fait
authentique.
Et donc même moi, je commence à me prendre au jeu de ça, alors que je l'étais pas du tout. Et cet esprit-là. Après, on fait beaucoup de soirées ensemble. On fait un gros événement par mois, laser game, escape game, bowling, tous les mois un gros événement, tous les jeudis. Un apéro tous ensemble, et on essaye de créer un esprit d'équipe important. On a toujours nos t-shirts Achille, ça c'est un des marqueurs qui est important aussi. Les gens sont fiers d'Achille.
Vous n'avez pas tout jeté de cette start-up culture parce que je burn du cash et autres, non, mais en revanche, ces marqueurs-là, vous les avez. Mais
en fait, pour moi, le vrai marqueur de la start-up, c'est celui-là, c'est pas burner du cash. Burner du cash, c'est parce qu'on nous a permis de le faire à un moment, mais les vrais débuts des startups, c'était plutôt...
On se
regarde pas le nombril et on avance. Et c'est ça, c'est tout le monde travaille dur, mais on se prend pas au sérieux.
Ça se voit dans le recrutement.
Dans la communication,
Ça se voit dans le recrutement. Il y a un process de recrutement particulier pour capter ce qui va fonctionner avec Achille ou pas.
Mais par contre, on perd des talents qu'on se dit ça marche, ça fitera pas. Moi, j'ai vu des gens super bons que j'ai pas pris en me disant ça fitera pas.
C'est pas qu'une compétence, c'est aussi un fit. Ouais.
Je préfère un moyen, un mec moyen qui fit qu'un bon qui fit pas. Parce que c'est okay. plus important que ça fit.
En espérant qu'ils deviennent bons ou même en espérant en restant moyen.
Ils sont tous bons chez Achille, mais même s'ils restent moyens, ça me suffirait. Parce que, en fait, c'est une équipe. On l'a vu, moi j'aime beaucoup le football, on l'a vu dans le football. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, s'ils ne s'entendent pas, ils ne gagneront pas un match.
Ouais.
Ben, je pense qu'une start-up, c'est la même chose.
T'es arrivé avec un paquet de bagages. Déjà, t'avais capté que tu savais faire ce projet-là. Ça t'a pas empêché d'apprendre des trucs, j'imagine. Depuis 3 ans, là, t'as appris quoi ? Sur quoi ? Il y a des choses que t'as pu réaliser ou apprendre ?
J'ai appris plus de patience que je n'avais avant.
Okay.
J'ai appris l'autre côté. Parce qu'en fait, moi, j'avais un gros bagage, mais je n'avais jamais été assureur. Et assureur, c'est costaud, c'est un métier. J'ai appris ça.
Un multi-assureur.
J'ai appris ma relation avec les réassureurs, chose que je n'avais pas. Parce que quand tu es MJA ou courtier, ben, toi, tu as des produits, c'est l'assureur qui gère ces réassureurs, tu ne les vois pas. J'ai vu une autre partie, donc j'ai appris, même dans mon métier d'origine, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, c'est déjà pas mal.
Bon, je me souviens d'une phrase que tu avais dit, d'un poste que tu avais dit, que tu avais mis pour ta fille à une époque, je crois qu'elle avait 18 ans, c'est ça une connerie ? 20 ans ?
Elle a 18 ans maintenant.
Elle a 18 ans. Donc c'est au moment de ses 18 ans, j'avais vu un poste où tu avais dit que l'essentiel c'était de préserver du temps pour sa famille, pour ses proches, pour ses sujets perso. Moi, c'est un de mes sujets favoris parce que j'ai 4 enfants, pas mal de projets en parallèle. Comment tu t'y prends, toi, pour préserver ton équilibre pro-perso ? Et est-ce que tu arrives à garder du temps pour tes proches et pour toi en parallèle de ce projet ?
Moi, je l'ai toujours fait, même avant Achille et même dans toutes mes autres boîtes.
À garder du temps pour toi ?
Alors, par exemple, j'ai plein d'exemples. Quand mes enfants étaient tout petits, je prenais un café avec ma fille, j'allais au café tous les matins à 8 h dehors, on se mettait en terrasse. J'habitais le 10e arrondissement, le quartier bien bobo, on avait plein de terrasses. La boulangère lui amenait ses chouquettes, moi je prenais mon café, on passait du temps qu'elle et moi. Je l'amenais en classe, je restais 20 minutes avec la maîtresse en classe avec les enfants, je connaissais tous ses copines et machin. Donc déjà, comme je savais que j'allais rentrer tard le soir, j'avais pas de temps. Donc je passais au moins 30-40 minutes qu'avec elle tous les matins. On peut arriver à 8h40 au travail, ça changera rien du tout, bien au contraire. Maintenant, j'arrive plus tard, d'ailleurs. Donc, je faisais ça. Je mangeais tous les mardis midi avec ma fille. Mon agenda était mardi midi, c'est ma fille. Elle venait au bureau, on mangeait ensemble, en amoureux, tous les deux. Je fais toutes les sorties scolaires de ma fille et de mes enfants depuis qu'ils sont nés.
T'es impressionnant, tu files des sacrés complexes.
Non, parce que moi, la maîtresse, au début d'année, je disais, mais c'est quoi les dates, est-ce que vous savez, et ainsi de suite. Je me mettais comme volontaire. Et t'es un menteur si t'es pas capable de rattraper 2 heures de ta journée en sortie.
Non, mais c'est juste d'accepter de le faire et de se dire
Oui, mais c'est-à-dire que c'est l'acceptation et de se dire qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce que tu vas rater pendant le mardi midi dans ton agenda, ta secrétaire et mère rendez-vous avec Ilana, ma fille. Mardi midi, c'est Ilana. Tu veux me dire que c'est un mec qui t'appelle et te dit on se voit mardi, et tu dis ben non, je peux pas, ça sera mercredi, ça va changer quoi ?
Non,
par contre, ta fille, quand elle grandit, elle ne peut pas te dire que ça sera jeudi ou ça sera. Tu ne la verras pas. Donc, ça, déjà, c'était. Je l'ai toujours fait. Les sorties, c'est pareil. Tu les fais. Et moi, j'ai eu une anecdote où je faisais toutes les sorties et la maîtresse pensait que j'étais au chômage. Et à l'époque, je gérais une énorme boîte, je voyais tout le temps et tout. Et j'avais envie de dire non, mais moi, je me couche à 5 h du matin. Si je fais cette sortie-là, je vais me coucher à 5 h du mat. Je vais rattraper, moi ma journée elle va commencer quand je vais te ramener le gamin, on va rentrer du zoo, je vais te ramener le gamin à l'école, je vais rentrer chez moi jusqu'à 5 heures du match, mais je vais travailler pour rattraper ma journée que j'ai pas faite. Voilà, donc ça c'est vraiment des moments auxquels je ne déroge pas. Après tu vas croire que je suis un fainéant, mais je pars en vacances tous les 7 semaines avec ma famille.
Tous les 7 semaines ?
Tous les vacances scolaires. Et je pars 4 semaines minimum en août, que tous les 4, à l'étranger, loin.
T'arrives à couper pendant ces 4 semaines ?
C'est pas de moins en moins évident. J'y arrivais pas, non, okay. De plus en plus évident.
Ok.
Bon. J'y arrivais pas, on coupe jamais, hein, mais j'y arrivais beaucoup moins. Alors, par exemple, j'avais une routine que je faisais beaucoup. Je partais dans les Caraïbes en hiver. Et en fait, parce que le décalage horaire me convenait. Et en fait, pour profiter bien de ma famille, je me levais à 5h du matin. Heure des Caraïbes, il était 10h à Paris. Je bossais de 5h du matin à 10h du matin. Donc ça faisait de 10h du matin à 15h hors de France.
Oui, ta journée était bien
passée. Ma journée était... J'avais fait tout ce que j'avais à faire, je pense.
T'avais suivi, ouais.
T'as pu voir les équipes, t'as fait tous les trucs que tu voulais, ainsi de suite. Et à 10h du mat, la famille arrive, tu vas au petit-déj, et t'as toute ta journée...
T'es serein parce que t'as fait ce que t'avais à faire.
T'as fait ce que t'avais à faire. En plus, le décalage horaire, après, il est plus, t'es plus réveillé ou appelé, ou ton téléphone ne va pas sonner, ils sont en train de dormir. Et je profitais vraiment de ces vacances-là.
À 18h,
en revanche. Et à 21h, j'étais KO. Voilà, et donc, du coup, t'as fait, mes enfants étaient petits, ou tout, donc ça t'as pu faire toutes tes vacances, et on part, oui, on part beaucoup.
Canon.
Les voyages, c'est très important.
Ça fait des beaux souvenirs, bah canon. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Achille pour les prochaines dates? Parce que j'ai l'impression que tu as touché... Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Ah oui, on est...
Pas dans la diversité des produits, aussi dans la diversité...
Si, dans plein de choses. Déjà, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Pour l'instant, on n'est pas à la fin.
Pas 2 milliards encore.
On n'est pas... On est à... Pas que l'argent, on n'est pas... Je pense qu'on a commencé à se faire respecter en tant qu'assureur, en tant qu'acteur du marché. Donc ça, c'est... une des plus grosses fiertés. Après, ben, il faut que ça tienne. On n'est pas à l'abri d'un problème, on n'est pas à l'abri d'un retournement, on n'est pas à l'abri de plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on souhaite? Qu'on continue à avoir un peu de chance, parce que c'est un peu de chance aussi, l'entrepreneuriat. C'est pas que...
Du talent, ouais.
C'est pas que du talent, loin de là. C'est un peu de courage, un peu de bon sens, un peu de chance et un peu de talent. C'est tout ça à mélanger. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Achille? Le meilleur.
La même croissance tous les ans
La même croissance, ou qu'un jour un gros acteur se dise j'en ai marre qu'ils nous taillent les croupières, ou j'aimerais bien travailler comme eux, et qu'on ait les moyens de devenir encore plus gros, racheté par quelqu'un ou financé, aller faire un peu l'étape d'après.
Et le business plan que vous aviez créé avec Xavier à l'époque ressemble à ce que vous avez fait là? Vous en êtes où?
Pas du tout, on a fait 5 fois ce qu'on...
5 fois ce que tu avais annoncé?
On a fait presque 8 fois ce qu'on a annoncé.
Et déjà, à l'époque où tu avais signé, on signait pour ça. Bon, bah merci pour ces beaux partages.
Merci à toi.
J'ai quelques questions rapides avant de nous séparer.
Ouais.
Et après, je te libère. La première, c'est quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie jusqu'ici?
Ma famille, je pense.
D'avoir réussi à préserver cette...
Oui, d'avoir réussi à faire ça.
De faire les deux en parallèle.
C'est plutôt eux qui ont réussi. C'est pas facile non plus de leur côté.
T'as réussi à faire les deux. T'as gagné un peu d'argent dans ta vie?
Ouais, assez pour arrêter de travailler.
Assez pour arrêter de travailler. Est-ce que tu peux me donner un exemple de craquage que tu t'es autorisé?
Alors, comme tu peux le voir, je suis pas un mec de craquage.
Non, je sens prudent, mais je vois pas tout non plus.
Non, je me suis acheté un très bel appartement dans un très beau quartier de Paris avec un très grand jardin. Craquage, c'est que... Moi, je peux faire des barbecues, jouer au ping-pong en plein cœur du 16e arrondissement. C'est un beau craquage.
Et offrir des belles fêtes à ta fille.
Voilà, des belles fêtes. Elle se les offre toutes seules, les fêtes, dans l'appartement.
Beau craquage. Sur le plan de l'orga, tu nous as parlé un peu de ce que tu étais capable de faire pour mettre tes priorités. Au quotidien, est-ce qu'il y a des routines dans la gestion de tes journées, de ton agenda, des outils qui t'aident à être plus productif?
Non, j'ai plus ça.
Non.
En fait, je pense qu'avec l'âge et la sagesse, ainsi de suite, on est quand même meilleur.
Dans la connaissance de soi, déjà.
Ouais, on est quand même meilleur. Et donc, du coup, on a besoin de beaucoup moins de travail et de pression et d'organisation. En fait, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit dire, on sait où on doit aller. Moi, par exemple, j'ai des choses Moi, je fais beaucoup de commercial et choses comme ça. Et quand je sens que je suis pas bon, j'arrête.
Tu passes la main?
Non, j'arrête. Je dis aujourd'hui, on arrête. J'arrête. Et des fois, ça rendait fou. Il me dit « Ah, tu peux l'appeler ?» Non, aujourd'hui, je ne sens pas, j'appelle pas. Et en fait, apprendre à ne pas cramer tes cartouches, tu sais que tu n'es pas bon, tu as toujours un truc qui ne va pas dans ta tête. Tu sais que tu ne vas pas être bon, pourquoi je vais l'appeler? Pourquoi je vais... Et donc, des fois, tu fais autre chose, mais tu ne fais pas de choses importantes parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir le faire. Aujourd'hui, on se partage extrêmement bien les tâches avec Francky. qui est très très bon. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment naturel, c'est vraiment...
Ton feeling est hyper efficace.
Je suis serein.
Plus que des outils ou un cadre.
Ouais, ouais. Je suis serein. Oui, voilà, j'ai pas besoin de... Après, on a des emmerdes. Après, on y pense tout le temps. C'est-à-dire que moi, je dors 4-5 heures par nuit depuis presque 30 ans, même plus. Je dors pas beaucoup, je pense beaucoup... Donc en fait, on travaille tout le temps, mais il n'y a pas d'outils. J'ai pas un carnet de notes pour dire tiens, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça.
Méthode d'organe,
non, j'en ai pas.
Ok, il y a un truc que tu aurais aimé réaliser plus tôt dans ta carrière ou dans ta vie perso?
J'aurais aimé. Non, les études, je les aurais vues différemment.
Tes études?
Ouais.
Parce que
j'ai pas super pris ça
au sérieux. Enfin, tu t'es
je les ai pris au sérieux. Hein. J'ai fait pas mal d'études, mais j'ai sous-estimé l'impact d'une grande école ou d'un truc comme ça. Je l'ai un peu sous-estimé.
Et pourtant, c'est presque ce qui fait ta force.
C'est ce qui fait ma force, mais tu me dis ce que j'aurais fait différemment. Je me dis parce qu'on est quand même dans un monde de merde ici où
ça compte.
Où ça compte. Après, maintenant, j'en ai plus besoin, hein, je t'avoue.
Tu fais un sacré pied de nez au système.
J'en ai plus besoin, mais ça a été.
Mais
ça a été très.
Tout le monde n'a pas eu ça a été la même issue.
Ça a été très compliqué. Ça a été beaucoup plus compliqué que.
Que d'autres. Que le parcours et que ce que se raconte a l'air
d'avoir. On est sur un papier, on dit c'est passé ça. Non, ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé comme ça. Après, non, moi, de toute façon, moi, j'ai fait des études, j'ai fait plein de. J'ai plein de diplômes, j'ai tout ça, j'ai pas de trucs, mais je parle de mon appréhension de l'école. Et pas forcément, c'est pas faire polytechnique, HEC ou autre, c'est vraiment savoir ce que tu veux faire. Alors, je trouve qu'on n'a pas été assez... moi, je viens de Seine-Saint-Denis, dans un endroit où t'es un garçon, tu fais la mécanique, t'es une fille, tu fais coiffeuse. Mais c'était ça, dans 95% de mes potes, on leur dit, tu fais mécanique, tu fais coiffeuse. Donc c'était... il n'y avait pas cette... Maintenant, les enfants sont agents de faillite dans le 6e et d'autres, c'est un autre monde, en fait. Et ça, j'aurais bien aimé l'avoir...
t'aurais pu le réaliser, t'aurais pu passer à côté et...
J'aurais bien aimé ça. Donc d'autres choses dont je suis plus fier aussi, c'est d'avoir amené mes enfants dans un monde qui n'était pas le mien et qui est totalement le leur. Et pour eux, ils n'imaginent même pas un autre monde. Et là, je me dis, j'ai réussi.
Effectivement. Est-ce qu'il y a une boîte, en dehors d'Achille, qui t'inspire dans son exécution, dans son marketing dans...
Oui, plus que m'inspirer, c'est moi, c'est Doctolib.
Ah oui ?
Tu parles du fait de la période que j'ai passée. Du coup, je l'ai pas mal utilisé. Et pff, c'est incroyable. Ça sauve des vies. Ça aide,
bouleverse une profession et une société. Aussi,
c'est hein. En termes de tout.
Moi, l'impact social, c'est impressionnant.
Moi, j'aurais rêvé...
Penser à un truc comme ça. Il y a la pensée, il y a la mise en œuvre. Ils ont été bons sur les deux.
Ils ont fait tout parfaitement. Et aujourd'hui, c'est un...
Ils n'ont pas dit leur dernier mot, j'ai l'impression.
Moi, c'est Doctolib, c'est vraiment mon truc.
Une rencontre qui t'a marqué et qui t'inspire?
J'en ai plein, mais après, vu la dernière rencontre que j'ai faite en 2020-2021, ce serait...
T'auras difficilement mieux.
J'aurais difficilement plus mieux, aussi. Plus impactant qu'une rencontre comme Xavier Niel.
Le genre Xavier.
Voilà, donc j'en ai vu plein dans ma vie, mais c'est quand même quelqu'un d'impressionnant.
Tes sources d'apprentissage aujourd'hui, tu consultes des gens, des bouquins, des sites qui t'aident à être à la page dans le monde tech ou entrepreneurial?
Non. Okay. Je lis beaucoup de. Je suis tout le temps sur LinkedIn, sur tous les journaux spécialisés assurance, les gens un peu tech, tout ça. Mais je lis, je n'ai pas de routine particulière. Francky, lui, regarde beaucoup tout ça. Donc, du coup, c'est tout le temps lui, il m'envoie, il me dit tiens, t'as vu ci, il y a ça. Il est plus dans la veille que moi là-dessus. Moi, j'ai jamais. Il y a une phrase que me dit toujours mon papa, il me dit regarde jamais l'assiette du voisin. Et moi, je me suis jamais comparé à un autre en me disant comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, comment ils doivent faire. Et je pense que
c'est une force.
Il y a une de mes forces, c'est de se dire, moi, je m'en fous de ce qu'ils font, en fait.
Mais t'as une sacrée confiance en toi, du coup.
Ouais, je vais faire et voilà, je regarde pas trop.
Bon, bah, écoute, t'as réussi à développer ta confiance ou à en hériter, j'en sais rien.
Mais c'est une soit de la confiance, soit de lui manque de confiance. Peut-être c'est peut-être un des deux, mais je me compare pas.
Bon.
Pourquoi ? Parce que peut-être que j'ai pas envie.
Il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir, en dehors d'Achille? Je te coupe l'herbe sous le pied.
Ouais, non, alors, moi, j'en ai une. J'ai une routine. Tu m'as demandé une routine. Moi, je fais une partie de belote tous les matins quand je me lève. Donc, je leur dirais belote.com, mais c'est parce que, tes mecs ont envie d'entendre.
Il y a tout.
Pourquoi
pas ?
Et les apps que je consulte le plus, c'est Pronote. Parce que tu connais Pronote.
L'école ?
C'est le truc de l'école de mes enfants. Pour savoir les devoirs, les notes, les machins, les trucs. Belote. Et pas mal sur les voyages.
Ok, pour préparer le prochain. Est-ce qu'il y a une personne que tu me recommanderais d'avoir à ce micro, qui est pour toi inspirante et qui mérite d'être. De partager son parcours ou sa vision ?
Ouais, je pense que tu devrais parler avec Francky.
Ouais ? Ça va faire beaucoup d'achilles au micro, mais.
Après, il a plein d'autres boîtes. Non, mais tu peux les. Voilà, mais je veux dire, en termes de.
De personnalité.
De personnalité différente de ce que tu vois sur ton parcours, tu devrais parler avec Francky.
Il y a des choses à en sortir.
Par exemple, Francky n'a pas de diplôme, aucun. Et il est. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait Polytechnique, Normale Sup, et je le trouve meilleur.
Bon, loin de là. Note. On a d'autres formats que le podcast, on verra ce qu'on peut faire. Au niveau du. Est-ce que tu as un conseil Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile?
Plein. Alors mon père, il donnait plein de conseils. Il y a des bons conseils. Alors il y en a un, avant, au début de ma vie, il me dit marie-toi avec une femme dépensière, elle te rendra riche. Et il était très dans le. Il sait que nous, on a cette fierté de vouloir que notre famille, elle aille bien.
Donc tu vas compenser ça.
Donc, non, mais donc si t'as une famille qui veut que ça de la merde, bah tu feras de la merde. Et si elle te dit non, mais moi je veux aller chez Chaumet pour ma bague de fiançailles ou je veux.
Il va falloir cravacher.
Bah tu vas la chercher. Et c'était un des conseils qu'il y avait. Il y avait un autre, c'est regarde pas l'assiette du voisin, ça, c'est très important aussi. C'est jamais te. Si la personne gagne de l'argent, tant mieux. Si toi, t'en as gagné, tant mieux. Si quand tu fais du business, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais toi, combien tu gagnes ?» Je dis « T'en fous combien je gagne ? Toi, est-ce que t'es content du deal qu'on est en train de faire ? Combien je vais gagner, comment tu vas gagner, c'est pas mon problème. Est-ce que toi, t'es content ? C'est pas content. » Il y a beaucoup de gens... Ouais, quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent, donc je faisais un peu de business, je vendais des jeans, des trucs, et puis on a un jean, le mec il dit « Combien tu l'as acheté ?» Je dis « Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de combien j'ai acheté ?» Il vaut 100 dans le commerce, je te le vends 50, t'as gagné 50, est-ce que t'es content ? Même si je l'ai payé 1. Ah non, si tu l'as payé 1, je te l'achète pas. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Ben non, c'est regarde pas, si toi t'es content, tu vas le faire. Et j'ai oublié le... Voilà, je me rappelle plus. Ouais, et si, une chose très 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 importante aussi qui draine ma vie, c'est ne pas être le plus riche du cimetière.
Mais tu m'as pas dit en quoi ça se manifestait, tu m'as dit que t'étais prudent et tout, mais c'est vrai que... Bon, c'est les voyages dans lesquels tu t'éclates, mais...
Non, je dépense pas mal d'argent dans plein de choses, mais j'aime pas conduire, j'aime pas les voitures, du tout. J'aime les appartements, j'aime les voyages, j'aime manger, j'aime beaucoup manger. Beaucoup, ça se voit d'ailleurs, malheureusement. J'aime faire plaisir à ma famille, j'aime les aider, j'aime tout ça, mais voilà, ça sert à rien de regarder ton argent dormir. Je fais pas beaucoup d'investissements. Je suis pas en train de me dire je vais me placer ça, je veux pas envie de me faire chier par exemple, donc plein de gens me disent, plein de gestionnaires en patrimoine disent sur Rumi on va faire ça, non laissez-moi tranquille, moi pour gagner 3 francs 6 sous aller me dire je vais aller au Luxembourg faire ci, je vais, non, ça m'intéresse pas, alors que c'est nul parce que je pourrais gagner bien plus d'argent, mais ça ne m'intéresse pas,
c'est un équilibre et paix d'esprit que tu as,
pour moi l'argent ne sert qu'à être libre, voilà, c'est facile de dire quand on a gagné. Mais c'est la seule chose qui est importante pour moi, c'est ma liberté. Je peux m'acheter ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça suffit.
Bon. Est-ce qu'il y a une musique que tu écouterais en boucle ?
J'écoute, tu sais, je ne suis pas un super client pourtant, mais je n'écoute pas de musique. Mais tous les soirs, je m'endors là, en ce moment avec, sur les podcasts. Je me mets des... Je m'endors
toujours. Innovation Leaders,
c'est ça ? Non, ça va, c'est pas du tout ça, tu vas voir. Je m'endors en ce moment avec Serge Lemiteau.
Ah, très bien.
Et j'adore ce truc. Et, je le trouve hyper drôle. Et en ce moment, donc, ça va pas durer longtemps. Mais je me mets mes écouteurs, tous les jours, je mets des épisodes différents. Mais voilà, je m'endors toujours avec soit des
podcasts. C'est une merveille.
Soit des podcasts sur l'histoire, soit des podcasts sur les meurtres.
Non résolus,
j'adore ça. J'adore les tueurs en série. Et en ce moment, j'ai besoin d'un peu de légèreté.
Serge Lemiteau fait son taf. Tu peux nous dire un truc que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi ? T'en as dit 2-3 à ce micro.
Ouais, j'ai pas. J'en ai dit
rien
beaucoup
de plus.
Là. Non, j'ai pas grand chose. Je suis fan de foot. Ils seront pas surpris, ils le savent.
Un bouquin qui t'a marqué ?
Non.
Et un conseil à quelqu'un qui voudrait le même parcours que toi ?
Le taf. C'est pas. Un parcours, c'est. Il y avait une expression aussi que j'aimais beaucoup, c'était. C'est faire la pensée, Bouygues l'a fait. À l'époque.
Laisser faire la pensée ?
Laisser faire la pensée, Bouygues l'a fait. Donc un conseil, moi j'ai plein de mecs qui viennent me voir et me disent « Ah, j'ai une super idée, on va faire ci, fais-le. »
Juste fais-le.
Juste fais-le. Et donc c'est juste un truc, c'est bah, si tu crois que c'est une bonne idée, fais-le. Et arrête d'en parler. Et ça va...
Et n'aie pas peur d'en parler aussi accessoirement.
Voilà. Et trop de gens sont là, non, je vais faire, non, bah, arrête de faire.
Voilà, fais-le. Commence à faire.
Commence à faire, et puis je pense que... Moi, je pense pas que j'ai du talent, loin de... pas du tout. Je pense que c'est que du travail. Et je trouve que les gens, ils travaillent pas assez.
Ils cherchent le crack.
Ils sont toujours en train de se dire, mais toujours trouver une excuse de pas faire. Il y a si on se réfléchissait vraiment, franchement, on faisait pas la Chine. Hein. Bon.
Eh ben, merci.
Voilà, merci à toi.
Merci pour ta transparence, c'était un bonheur de t'entendre.
Ben, merci.
Bravo pour ce parcours inspirant.
Merci à toi.
Salut, Ralph.
Salut.
Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.